que j'ai étudié tout sauf Gramsci, donc je ne suis pas un spécialiste de Gramsci, et donc par conséquent je crains de ne vous décevoir, mais je vous demande pardon par avance pour d'éventuelles approximations ou confusions que je commettrais aux yeux de ceux d'entre vous qui seraient des grands lecteurs des textes de Gramsci et des grands connaisseurs de sa biographie. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux en simplifiant et en allant au but. Et comme Michel l'a dit, prochainement, à une date qui n'a pas encore été annoncée, donc il y aura une conférence de Fabio Frosini, qui est l'un des grands spécialistes de Gramsci, qui viendra à la Sorbonne hein, pour le cycle Marx au XXIe siècle. Et donc, idéalement, je parle sous le contrôle de Fabio Frosini, que j'espère vous irez entendre. Je crois que c'est au mois de février, enfin bon, ça n'a pas encore été annoncé. Voilà, le but de cette séance, ce n'est pas seulement de donner une introduction assez générale, voire trop générale, mais surtout de vous inviter à la lecture des écrits de Gramsci, en donnant quelques renseignements pour bien les aborder, et notamment le corpus le plus important, qui est les cahiers de prison. On peut également profiter, donc pour connaître Gramsci, du DVD qui est produit par Delga avec Domenico Lo Sordo, qui est ici voilà, disponible, et aussi donc voilà, qui vient de paraître la publication de l'un des cahiers de prison, le cahier numéroté 11, qui remonte aux années 1932 et 33, qui sont un peu les années les plus fastes de la production de Gramsci. Sur l'étude de la philosophie. Donc, c'est intitulé Introduction à l'étude de la philosophie, traduction française, bien évidemment. Voilà. Alors, je ne vais pas vous proposer d'autres livres. Évidemment, il y a des introductions à Gramsci, etc. Je pense qu'il faut, sauf pour Delga, évidemment, il faut s'en méfier parce que Gramsci se prête à de nombreuses torsions, lectures, parce que parfois il s'exprime d'une façon subtile. Donc on a voulu faire de lui carrément un libéral récemment. Enfin, il faut vraiment faire attention. Et je crois que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir les textes en ayant un minimum de bagage pour se lancer dans cette lecture.
C'est comme Marc, ça.
Tu vas voir, c'est pas... malheureusement, c'est un peu plus tragique. Voilà, alors je rappelle qu'il y a un Gramsci avant la prison, hein, bien entendu. Il est né en 1891 en Sardaigne. Il a connu une enfance marquée, hélas, d'un côté par la maladie qui le rend bossu, et qu'à l'époque on n'avait pas trouvé moyen de soigner, en tout cas dans son environnement, un village perdu en Sardaigne. Et aussi une enfance marquée par l'emprisonnement de son père, qui aurait été un fonctionnaire indélicat, et qui plonge donc la famille dans l'infamie et la pauvreté. C'est grâce aux efforts de la mère que la famille s'en sort, mais évidemment dans un contexte très, très dur. Gramsci parvient néanmoins à faire des études universitaires à Turin, en faculté de lettres, mais les abandonne bientôt pour l'activité militante et le journalisme politique. Il découvre le socialisme, il s'engage et il devient un jeune leader et un journaliste tout à fait, comme vous le verrez, brillant. Son premier écrit important aborde la nature de la révolution d'octobre. C'est un article, attention à la date, du 1er novembre 1917, qui devait paraître le 1er novembre 1917, mais qui fut censuré et qui donc parut ensuite le 24 novembre. Le titre dit tout, La révolution contre le capital. Alors il y a un jeu de mots, mais le sens c'est le capital de Marx. La révolution contre les thèses contenues dans le capital de Marx. Gramsci reconnaît dans cet article que les bolcheviks ont agi avant que les conditions ne fussent mûres, mais il estime qu'ils se sont affranchis à juste titre d'une lecture trop rigide des thèses de Marx. car celui-ci ne pouvait pas prévoir ce phénomène entièrement nouveau qui était la guerre mondiale et qui, selon Gramsci, avait accéléré les phases historiques du capitalisme. Gramsci invoque une interprétation créative de Marx dans un sens volontariste, et on verra plus tard l'usage assez fréquent de ce mot de volonté. C'est donc à cette aune que Gramsci juge favorablement l'entreprise politique russe, qui, je le rappelle, était en train de se produire. Hein, donc, 1er novembre 17, on est dans les 10 jours qui ébranlèrent le monde. On a donc là l'une des premières réflexions théoriques sur la révolution d'octobre. Alors, pas une exaltation à critique, mais le premier exemple d'analyse lucide que Gramsci a su livrer, des nombreuses analyses donc qu'il saura livrer dans sa vie. Il était à la fois suffisamment informé sur l'évolution des rapports de force à Pétersbourg et très sûr quant à l'intérêt politique et historique de ces faits. Alors je vais le citer. Je cite, donc, « Les bolcheviks renient Karl Marx. Ils affirment, par l'action motivée et par le témoignage de leur conquête, que les schémas du matérialisme historique ne constituent pas une loi d'airain, comme on pourrait le croire et comme on l'a cru. Il y a pourtant une fatalité dans ces événements aussi. Si les bolcheviks renient certaines affirmations du capital, ils en épousent la logique interne, vivifiante. Ils vivent la pensée de Marx, celle qui ne meurt pas et qui prolonge l'idéalisme italien et allemand, cette pensée qui, chez Marx, avait été contaminée d'incrustations positivistes et naturalistes. Cette pensée donne toujours la priorité non aux facteurs économiques bruts, mais à l'homme, aux sociétés des hommes qui se réunissent, se mettent d'accord et qui, grâce à ces contacts, c'est-à-dire à la civilisation, développent une volonté sociale collective et comprennent les faits économiques, les jugent et les adaptent à leur volonté jusqu'à faire de cette volonté le moteur de l'économie. » Fin de citation. Alors, je précise que cet article dont nous avons lu un court extrait n'est pas du tout isolé. Gramsci publie sans cesse, depuis la révolution de février, etc., les analyses politiques dans la presse socialiste. D'ailleurs, ces brefs articles, souvent très brefs, sont très savoureux, simples et clairs et efficaces. Alors, bientôt, au début mai 1919, Gramsci, avec quelques camarades turinois, dont Angelo Tasca et Togliatti, fonde un nouveau journal intitulé L'Ordine Nuovo, l'Ordre Nouveau, qui devient le point de ralliement du mouvement d'occupation des usines Fiat par ce qu'on appelle les conseils d'usine, Consigli di Fabbrica, préfiguration de la prise en main par les ouvriers industriels de l'appareil de production italien. À côté du titre du journal, Gramsci fait écrire ces trois phrases, je cite en traduisant évidemment, « Instruisez-vous parce que nous aurons besoin de toute notre intelligence. » Je répète, « Instruisez-vous parce que nous aurons besoin de toute notre intelligence. » « Agitez-vous, car il nous faudra tout notre enthousiasme. Organisez-vous, parce que nous aurons besoin de toute notre force. » Fin de citation. C'est là une synthèse efficace de la pensée révolutionnaire inspirée des bolcheviks. L'organe créé par Gramsci et ses amis souhaitait fournir aux ouvriers les instruments intellectuels pour agir dans cette situation révolutionnaire que l'Italie a vécue à la fin de la Grande Guerre et qui est appelée les deux années rouges. Gramsci est très lucide sur l'occupation des usines à Turin. Voici ce qu'il publie dans le Avanti du 2 septembre 1920. Je cite « La relative facilité avec laquelle on a réalisé l'occupation des usines, doit bien faire réfléchir les ouvriers. Ils ne doivent pas se bercer d'illusions à cet égard. Le pouvoir reste entre les mains du capital. La force armée reste l'apanage de l'État bourgeois. L'administration publique, la distribution de la nourriture, les banques, l'appareil commercial intact, restent sous le contrôle de la classe bourgeoise. » Fin de citation. Malgré ces mises en garde, nous verrons que ni Gramsci ni ses camarades n'ont vu venir dans toute son ampleur le phénomène fasciste, enfin du moins dans un premier temps, qui organisera la réaction en Italie. Avant d'aborder ce thème majeur, il importe de souligner que Gramsci est très loin de s'occuper uniquement de politique et d'économie, ou de philosophie. Il tient, depuis ses premières années, par exemple, des rubriques théâtrales et littéraires et s'intéresse vivement à tous les mouvements culturels et artistiques, en eux-mêmes et, bien sûr, comme expression de la société. Par exemple, il écrit ceci en 1921 à propos de Marinetti et des futuristes italiens. Je cite, ils font preuve d'une conception nettement révolutionnaire, absolument marxiste, alors que les socialistes étaient à mille lieues de ce genre de questions. Dans leur domaine, les futuristes sont des révolutionnaires de la culture. Ici, du point de vue de l'œuvre de création, il est probable que la classe ouvrière mettra longtemps à dépasser ce que les futuristes ont accompli. Fin de citation, et je précise que par la suite, il prendra d'autres positions vis-à-vis du futurisme, lorsque Marinetti laissera la direction du mouvement et le mouvement ira vers le fascisme. Voilà, donc là, ce que je cite, c'est au début, 21. En juin, donc je remonte encore, en juin 1920, il affirmait, je cite, « La révolution prolétarienne ne peut qu'être une révolution totale, ayant pour but la formation de nouvelles mœurs, d'une nouvelle psychologie, de nouvelles sensibilités, manières de raisonner et de vivre propres à la classe ouvrière et que celle-ci devra forger. Bref, il faut créer une nouvelle civilisation prolétarienne. » Fin de citation. Bon, j'ajoute qu'en écrivant le compte-rendu d'un drame d'Ibsen, bien connu, qui n'était pas compris par la critique italienne, en ce qu'il montre l'héroïne se détacher de son mari pour aller vivre seule sa vie, Gramsci ironise sur ces hommes pour qui, hors de la famille, une femme ne peut être qu'une cocotte. Donc voilà, pour montrer quelques exemples de l'ampleur, hein, de l'éventail des intérêts de Gramsci et de son attention humaine et politique, outre que philosophique, à des tas de phénomènes dans la société. Alors, comme vous le savez, j'imagine, Gramsci a l'occasion de se rendre à Moscou dès juin 1922, alors que l'Italie est à la veille de la prise de pouvoir par Mussolini. En URSS, il participe activement à l'élaboration de la ligne de l'Internationale, mais trouve aussi l'amour, celui de l'une des trois filles d'un ami de Lénine et bolchevique de la première heure, du nom de Apollon Schucht. Julia Schucht lui donnera des enfants, mais les deux passeront presque toute leur vie séparés. Les lettres de Gramsci à Julia et à sa sœur Tatiana offrent un témoignage poignant de sa vie sentimentale et familiale. De retour en Italie en 1923, il fait raille contre les fascistes et est élu député communiste. Donc il y avait encore un semblant de parlement avant 1926. Retenons deux jugements lapidaires qu'il prononce dans la Chambre des députés. Premier, je cite, « Le consensus dont vous, fascistes, vous prévalez, c'est un consensus qui a été arraché avec le bâton. » Et deuxième, une révolution s'appuie sur une nouvelle classe au pouvoir. Or, le fascisme ne se fonde sur aucune classe qui n'était pas déjà au pouvoir. Fin de citation. Gramsci devient l'icône du mouvement antifasciste communiste. Et c'est bien pour cette raison que Mussolini en personne suivra par la suite son emprisonnement et ses procès. À partir d'octobre 1926, il s'opposera à sa libération jusqu'en 1937, pratiquement à la fin de la vie de Gramsci. Il ne meurt pas, comme vous le savez, en prison, mais il aurait pu, puisque ses conditions était devenu insoutenable. Donc, je reviens à l'année 26, qui est également celle du congrès du PCI en exil à Lyon, en janvier. Congrès qui marque le tournant du parti italien sous la conduite de Gramsci, et au détriment de ce qu'on appelait les maximalistes, tournant inspiré par l'international, évidemment. Et Gramsci donc, est largement auteur des thèses de Lyon, qui expriment donc, cette refondation du parti italien sous sa houlette. Alors, son arrestation intervient dans un moment délicat, c'est juste un moment où se fait jour une divergence entre Gramsci et l'international communiste, qui, à ce moment-là, était représenté à Moscou par Togliatti. Donc lui, il était en Italie, c'était Togliatti qui était à Moscou, et qui donc suivait les évolutions politiques russes. Dans une lettre datée 14 octobre, le bureau politique italien, c'est-à-dire Gramsci, prenait vigoureusement position au sujet du parti russe. Donc il s'exprime sur ce qui se passe dans le parti communiste bolchevique russe. Parti dominé par Staline et dont on craignait une scission de la gauche. Donc pour chasser Trotsky, Kamenev, Zinoviev. Gramsci prônait, au contraire, l'unité du parti, dans des termes très vigoureux. Il recommandait à Staline de garder cette minorité à l'intérieur du parti. Et la lettre était telle que Togliatti préféra ne pas remettre ce message à la direction du parti russe, suscitant ainsi la colère de Gramsci. Donc c'est une affaire à la fois diplomatique, personnelle, puisque les deux sont amis depuis qu'ils avaient 16 ans, et théorique, s'agissant du problème de l'unité du parti, de son maintien. Donc c'est au milieu de tout ça que le 31 octobre, Gramsci est arrêté en gare de Milan, alors qu'il tentait de s'expatrier en Suisse. Sa qualité de député ne fut aucunement respectée. Un attentat raté au Duce avait, donc tout récemment, avait en effet permis de déclencher des mesures d'exception, dont Gramsci fut la victime excellente, victime d'exception, au moment même où sa position donc dans l'international communiste n'était pas partagée. À partir de ce moment, Gramsci est isolé de l'essentiel de la vie de son parti, et a fortiori de l'international. Il est relativement coupé du monde extérieur. Sa santé, qui était déjà compromise, va subir des atteintes irrémédiables. De plus, il sera transféré d'une prison à l'autre, tout le temps, dans des conditions qui, pour lui, physiquement, étaient éprouvantes, et aussi, évidemment, moralement. C'est dans ce contexte qu'il écrira les milliers de pages qui forment les cahiers de prison. Notons une chose importante, c'est que jusqu'à la fin de 1928, on lui refusera le papier pour écrire, l'accès aux livres, et même après, tout cela lui sera compté. Il avait 2 heures, par exemple, le matin, 2 heures après-midi, etc. Pour ne rien dire de la censure qui l'obligeait à dissimuler les références les plus sensibles et évidentes à l'URSS. Normalement, il en parle en disant l'Union, avec un grand U. À Staline, alors comme il s'appelait Vissarionovitch, il l'appelle Bessarion, comme le fameux cardinal grec. À Marx, bon, très souvent Marx est cité en tant que Marx, mais le marxisme est cité comme philosophie de la praxis, et Lénine est cité comme Ilitch ou Ilitchi à l'italienne. Je précise aussi qu'il devait se méfier de cette attention de Mussolini. N'oublions pas qu'ils avaient été camarades de parti, puisque Mussolini avait commencé socialiste. Et qu'à un moment donné, il aura une expertise médicale, donc un médecin qui va regarder ses cahiers qui gribouillaient. Et heureusement pour nous, il va trouver que ces cahiers contiennent des propos incohérents, un fouillis, un fatras, qui, d'après ce médecin, témoigneraient de, disons, des atteintes irrémédiables au moral et au cerveau de Gramsci. Évidemment, si le médecin avait estimé que c'était un trésor, Mussolini en aurait peut-être disposé autrement. Donc, c'est pour nous une chance, et c'est peut-être aussi une manière un peu louvoyante qu'a eu Gramsci d'écrire qui a permis cela. Donc voilà, la prudence était de mise dans, quand on écrit des choses politiquement, disons, politiquement marquées dans une prison à l'époque fasciste. Hein, ça, c'est évident, mais il faut s'en souvenir quand on lit, parce que parfois on trouve un peu sinueux, on ne comprend pas pourquoi. Donc la raison est terrible. Donc, malgré donc, toutes ces limitations, entre 1929 et 1935, Gramsci va déployer une impressionnante activité théorique d'une portée si vaste que, une fois ses cahiers récupérés et publiés, la pensée de Gramsci a eu une influence dans le monde entier, alors même qu'il raisonnait essentiellement à partir du cas italien. Notamment, il essayait de s'interroger sur le fascisme. Et donc, à partir de l'histoire de la culture italienne, donc jusqu'au surgissement du fascisme comme nouvelle catégorie politique. Donc, on va le voir dans un instant. Donc, lire les cahiers de prison ne va pas de soi. C'est autrement plus compliqué que la lecture de ces articles de presse ou de ces lettres de prison. Il faut en effet tenir compte des conséquences sur l'écriture de Gramsci, comme je disais, des conditions dans lesquelles il rédigeait ses notes. Et se présentent comme des notes préparatoires à des volumes, des ouvrages, que Gramsci aurait voulu écrire selon un plan de travail précis, mais qu'il n'a pas pu mener à bien pour les raisons tragiques que nous venons de voir. De ces notes, nous avons souvent deux rédactions. Un premier jet, mais qui est très abouti, donc ce n'est pas du tout brouillon, et une version remaniée, plus aboutie, qu'on appelle respectivement texte A et texte C. Tandis que les notes qui existent dans une seule rédaction constituent les textes B. Donc A, B et C. Et on ne peut pas tout dater avec précision, parce que, voilà, c'est comme ça. Autre difficulté, certaines notes se présentent sous la forme de commentaires à des livres ou à des articles de revues que Gramsci parvenait à obtenir, donc à lire. Ce sont donc des textes secondaires, si on veut, qui ne peuvent pas être compris sans des références à ses autres écrits. Heureusement, les bonnes éditions offrent un appareil de notes explicatives. Et en outre, le profane peut choisir les pages des cahiers de prison à lire grâce à l'index des noms et des notions qui se trouve à la fin donc, de l'édition complète. Donc, ces index qui permettent de connaître toute la richesse du contenu des cahiers et surtout qui permettent de s'y retrouver à partir de points d'intérêt très variés. Donc, mon conseil est d'aborder la lecture des cahiers de cette façon et on ne sera jamais déçu. Car Gramsci a toujours eu des réflexions passionnantes à nous livrer sur une foule de sujets. On en trouve évidemment aussi, outre l'édition complète, des éditions un peu comme celle-ci, plus thématiques. Alors celle-ci, c'est l'édition philologiquement correcte d'un cahier, mais on a des éditions par thème, sur le Risorgimento, sur les intellectuels, sur Machiavel, etc. Donc maintenant, je vais aborder un thème parmi ceux qui forment les cahiers qui me semble nous parler davantage à nos jours, aujourd'hui. C'est le rôle que jouent les intellectuels dans la lutte politique, notamment au sein de la lutte pour conquérir l'hégémonie politique. C'est un autre concept cher à Gramsci. Poursuivant, en fait, il poursuit la réflexion de Lénine, que Lénine livre dans L'État, la Révolution. Gramsci donc constate la nouvelle étendue de l'action de l'État, tant en URSS sous Staline qu'à l'Ouest, suite à la crise de 1929. Et donc Gramsci élabore le concept qu'on pourrait appeler de État élargi ou État intégral, c'est-à-dire le concept d'appareil d'État qui se développe tant au niveau de la structure qu'à celui de la superstructure. Les deux niveaux étant, Gramsci insiste, étroitement liés. Ce genre d'État élargi déploie un tel nombre de fonctions diverses que, en plus de la force, il est obligé d'avoir largement recours au consensus, ce que Gramsci appelle l'hégémonie. Donc c'est un mot, comme je dis, qui vient de Lénine. Dans la réflexion de Gramsci, ce mot est très présent et il est suivi d'un adjectif qui le précise, tour à tour, hégémonie politique, culturelle, morale, linguistique. Hégémonie indique à la fois la direction, le fait de diriger, et la domination. Gramsci note comment l'hégémonie est le fruit d'une construction patiente et capillaire, et ses domaines sont multiples. L'école, la presse, le travail culturel ou technique, le droit. Une note de 1931-32, qui est livrée dans le cahier numéroté 4, paragraphe numéroté 38, reconnaît, alors je vais dire ça parce qu'il reconnaît la dette envers Lénine, donc à ce propos. Alors, je vous préviens que j'ai découpé un peu, j'ai reformulé un peu la phrase parce qu'il disait tout en une seule phrase, donc c'était un peu long. Le concept de Gramsci comporte le mot gnoséologique qui signifie relatif à la théorie de la connaissance, comment l'être humain peut connaître, donc la gnoséologie. Voilà, je cite. Marx affirme que les hommes acquièrent la conscience des conflits économiques sur le terrain des idéologies. L'idée que cette affirmation de Marx a une valeur gnoséologique et non simplement une valeur psychologique et morale est un concept qui a donc une portée gnoséologique lui-même, et il faudrait le considérer comme la plus haute contribution apportée par Illich, c'est-à-dire Lénine, à la philosophie marxiste, au matérialisme historique. C'est une contribution originale et créatrice. De ce point de vue, Illich ferait progresser le marxisme non seulement dans la théorie politique et dans l'économie, mais également dans la philosophie. C'est-à-dire qu'ayant fait progresser la théorie politique, il ferait progresser en outre la philosophie. Fin de citation. Donc tout ça, il le disait en une seule phrase. C'est un peu difficile à suivre. Mais Gramsci développe l'idée qu'il tient de Lénine bien au-delà. Pour lui, tous les appareils d'État ou privés concourent à fabriquer de l'hégémonie qui, en temps normal, n'a pas tellement besoin de la coercition. Et la séparation du pouvoir de matrice libérale en est la traduction juridique. Mais attention, si Gramsci insiste sur la conquête de l'hégémonie, ce n'est pas pour remplacer la révolution elle-même. Il faut plutôt dire que c'est le versant extérieur, la version visible de la prise du pouvoir politique de la révolution, notamment dans les pays à capitalisme avancé, en raison de l'omniprésence de cet État élargi dont je parlais. Alors, citons un autre texte célèbre à ce propos, tiré du cahier 7, paragraphe 25. Alors, il va parler de l'Orient, mais en réalité, c'est la Russie. Dans l'Orient, donc je cite, « Dans l'Orient, l'État était le tout, tandis que la société civile était arriérée et fluide. À l'Occident, il y avait un juste rapport entre État et société civile, si bien qu'à chaque soubresaut de l'État, la forte structure de la société civile apparaissait aussitôt. L'État n'était qu'une ligne avancée du front, derrière laquelle on avait une chaîne résistante de châteaux forts et de casemates. » Fin de citation. Alors, Gramsci ajoute que ces propos généraux doivent être minutieusement nuancés par une analyse propre à chaque pays, à chaque nation. En tout cas, d'après cette citation, on voit bien que pour Gramsci, la ligne du front qui est représentée par l'État ne peut pas être pleinement conquise si l'on ne conquiert pas aussi les structures sociales les plus résistantes dans la société civile, donc ce qui s'appelle les casemates et les châteaux forts, à savoir l'école, l'église, les tribunaux, les médias, qui permettent de conforter l'exercice du pouvoir par l'armée, le parlement, le gouvernement. C'est là une théorie qui s'oppose fondamentalement à l'idée de révolution permanente relancée par Trotsky, avec qui Gramsci polémise âprement. Or, les acteurs de cette lutte capillaire pour la conquête de l'arrière-front ce sont les intellectuels de tous les niveaux et de tout type. Donc les intellectuels, même lorsqu'ils prétendent être neutres, ils sont, dit Gramsci, organiques. C'est-à-dire, ils soutiennent, par leur action, l'idéologie collective menant à l'hégémonie. D'où l'importance de chaque élément dans cette chaîne d'intellectuels, chaque élément qui en assure la tenue ou, en cas de révolution, ont produit la débandade. D'où le rôle central dans la lutte communiste que Gramsci assigne à la, je cite, « réforme intellectuelle et morale que le parti doit promouvoir et organiser ». C'est une phrase aussi la suivante qui est prise du cahier 8, paragraphe 21. Donc le parti doit pouvoir organiser cette réforme intellectuelle et morale car cela, je cite, « signifierait le terrain pour un développement ultérieur de la volonté collective nationale et populaire vers l'accomplissement d'une forme supérieure et totale de civilisation moderne ». Fin de citation. Alors, la réforme intellectuelle et morale est une idée inspirée à Gramsci par Georges Sorel. Mais le rôle dirigeant du parti tel que Gramsci le dessine a été façonné non seulement, évidemment, à l'exemple des bolcheviks, mais il a été façonné à partir de la lecture du Prince de Nicolas Machiavel, modèle qui donc émane de l'histoire italienne, mais qui acquiert, grâce à Gramsci, enfin déjà chez Machiavel, acquiert une portée universelle. C'est la réflexion sur la manière de fonder un pouvoir durable. Et le contenu de cette réforme intellectuelle est donné par le marxisme, que Gramsci, donc, comme je l'ai dit, appelle souvent philosophie de la praxis, c'est-à-dire de l'acte concret, de l'action. Pour être clair, je cite la formule de Gramsci, « Le programme de réforme économique est la modalité concrète que revêt chaque réforme intellectuelle et morale. » Fin de citation. On voit là, d'après ce que j'ai évoqué, combien sont ridicules les polémiques sur Gramsci totalitaire. Je ferme la parenthèse. Donc, en effet, les considérations de Gramsci s'appliquent à tout État et pays de type développé. C'est le constat que l'État intégral enrôle des masses d'intellectuels ayant justement la fonction de créer le consensus. Le parti communiste doit donc prendre acte de cela et susciter ses propres intellectuels organiques. N'oublions pas que Gramsci a constamment devant les yeux, au sens propre, la réalité du fascisme sur laquelle il n'a pas cessé de réfléchir. Il a eu recours, pour l'analyser, à la notion de révolution passive, c'est-à-dire d'adaptation des classes dirigeantes anciennes aux nouveautés d'une vraie révolution. Donc, il s'adapte afin de garder quand même le pouvoir. Gramsci estime que le fascisme est la révolution passive du XXe siècle, comme le libéralisme l'a été tout au long du XIXe siècle, avec évidemment des combinaisons variées en fonction des luttes sociales. Je crois que ces leçons nous sont précieuses aujourd'hui et qu'il est donc légitime de se réclamer de Gramsci, tout comme on se réclame de Marx et d'Engels. Voilà, alors ça c'était un peu les considérations que je tenais à vous soumettre. Je pense que nous pouvons maintenant ouvrir un espace comme ça de dialogue, en sachant qu'encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste de Gramsci, mais je peux vous dire mes idées, mes impressions face à ce géant de la pensée moderne. Donc, merci.
Merci. On va passer aux questions.
On va passer au
débat. Ouais, on va... Alors, allons-y. Qui commence ? Bah, commence.
Attends, je vais me faire sortir du micro.
D'autres séminaires vont aussi parler de Gramsci et de la question de la nation, je vous disais avant, et ça m'intéresserait de savoir comment vous positionnez en tant que chercheur en ce qui concerne Gramsci, la question nationale et nationalité. Si tant est, enfin, je pense qu'il a dû réfléchir là-dessus et je voulais savoir si vous aviez quelques propositions à faire ou quelques quelques réflexions à faire là-dessus, sur Gramsci, la question nationale, les nationalités, en fait, la hiérarchie. Oui.
Bon, je réponds déjà à ça. Sans micro, ça va? Sinon, bon. Alors, merci. Oui, je vais vous livrer un peu quelques réflexions. Tout d'abord, un constat, c'est que le thème de la nation était un objet de réflexion dans le monde communiste. Bon, je rappelle l'ouvrage de Staline. Gramsci, comme Staline, était un linguiste, donc intéressé au phénomène national par le biais de l'étude de la langue, de tout le patrimoine culturel qui est véhiculé par la langue. Donc ça, c'était un thème en URSS très important, hein, à l'heure de justement de la libération de différentes nationalités de l'ancien empire russe. Donc la toile de fond, ça doit être celle-là. D'autre part, Gramsci parle beaucoup de l'Italie comme nation en devenir. Alors lui-même était personnellement touché par cela, puisqu'il venait de ce qu'on appelle le Mezzogiorno, il venait de l'île de Sardaigne, qui techniquement n'est pas aussi au sud que la Sicile, mais enfin ça fait partie des zones économiquement arriérées encore aujourd'hui, malheureusement en Italie. Et il a fait ses études à Turin. Turin, d'où on envoyait des ethnologues pour étudier les singes en Sardaigne, hein. C'est-à-dire que c'était une race de brigands. On avait une vision presque raciale de l'infériorité des Italiens des îles ou du sud à cette époque-là, hein. Donc notamment pour la Sardaigne, ils n'avaient pas bonne presse. Donc lui, il a été un de ces Italiens de seconde zone qui m'ont étudié dans un des pôles du développement industriel, etc. Et il ressent très fortement cet état de choses, au point que c'est l'un de ceux qui ont lancé en Italie ce qu'on appelle la question méridionale. Et c'est un point porteur dans les thèses de Lyon de 1926, en ce qu'il montre que l'Italie récemment unifiée, hein, au cours du XIXe siècle, a très vite utilisé le Sud comme une colonie interne. Donc elle a importé des travailleurs du Sud, elle a soumis le Sud à une domination via le contrôle des élections locales, etc. Enfin, il fait toute une analyse, il n'est pas le seul, mais chez lui, ça devient un axe central dans son analyse de l'économie italienne. Et aussi donc, dans la nécessité de faire un travail capillaire dans les campagnes auprès des paysans pour aboutir à une nationalisation des masses prolétariennes italiennes. Donc je ne vais pas entrer dans ce détail, mais chez lui, la question nationale est une question italienne, de l'unité d'Italie, qui sur le papier a été évidemment atteinte dès 1861, mais très récemment par rapport à d'autres nations européennes, mais qui est une unité factice de façade du point de vue de la population. Et donc pour lui, la lutte communiste en Italie consiste à fabriquer la nation italienne, et c'est pour ça qu'il insiste sur la notion de réforme, hein. Alors quand on dit réforme, là je sais parce que j'ai un peu lu de plus près cet aspect. En lecteur de Croce, il analyse l'absence d'une réforme protestante en Italie, et pour cause, hein, l'Italie c'est la terre sainte du catholicisme, donc ils ne vont pas faire la révolution protestante, mais le rôle qu'a eu la révolution protestante dans la création de masses nationales dans d'autres pays d'Europe. Donc ça c'est une... Il y a plusieurs lectures qui suggèrent ça. Il y avait déjà un texte de Thomas Masaryk, écrivain tchèque, sur l'absence de révolution dans les pays slaves et notamment en Russie. Absence, pardon, des réformes. Donc il a une lecture, disons, diachronique, qui plonge un peu les racines assez en arrière dans l'histoire. Alors ce que je peux dire pour l'Italie, c'est que Gramsci... dès le début, hein, les premières pages des cahiers des prisons, dans le premier cahier, il s'interroge sur l'unité italienne carrément à partir de l'Empire romain. Parce qu'il dit que ceux qui ont créé l'Empire romain, et notamment celui qui l'a un peu restructuré comme Jules César, n'a pas seulement conquis l'Italie, mais il a conquis toute la Méditerranée. Donc, cette conquête même, étant aussi large, a empêché une identification de l'Italie, puisqu'il y avait Rome capitale et l'Empire romain, mais pas l'Italie. Et donc, il montre que les bourgeoisies d'Italie de l'époque ont été quelque part sacrifiées à l'Empire, au fait d'avoir un empire aussi vaste, et dont la partie la plus développée, la plus animée, était bien sûr la partie orientale. La Syrie, l'Égypte, l'Anatolie. Donc, cela a fini par appauvrir la campagne italienne, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais c'est juste pour dire que, face à ce problème national, notamment s'agissant d'un pays aussi compliqué que l'Italie, Gramsci remonte carrément à l'Empire romain. Voilà, donc là, bon, après, le problème peut-être qui nous intéresse plus, nous, ici, c'est la direction politique qui permet d'aboutir à la création d'une société, d'une nation. Voilà, donc ça, c'est le rôle que Gramsci assigne au parti en tant que prince moderne, hein, prince au sens de Nicolas Machiavel. Donc c'est le sujet politique collectif qui doit permettre une refonte de la société, etc. Donc voilà, c'est... Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais enfin, j'avais envie de vous dire ça. Ouais.
Voilà, merci, merci beaucoup pour cette proposition. Alors moi, j'aurais deux questions. D'abord, quelque chose qui est très intéressant, parce que vous parlez effectivement de quelque chose comme cette notion d'État et d'État qui serait vraiment, bon, qui assurerait et l'hégémonie. Et vous parlez, bon, peut-être m'éclairer un peu plus sur justement le fait que la société civile doit être intégrée complètement à ce, en tant que sujet, vous venez de dire, national collectif. Alors là, c'est d'autant plus intéressant que, bon, en Europe, ça semble, en Occident, avoir été atteint, mais là, partout dans le monde et dans le Sud, nous avons des pseudo-révolutions. Et justement, est-ce que ce serait la rupture, enfin, je veux dire, entre justement l'État et la société civile, vous voyez, qui n'aurait pas abouti. Hein. Voilà, ça c'est une chose, voilà, ça c'est une question. La seconde question, c'est par rapport à la théorie de la pratique. Effectivement, bon, c'est un grand linguiste, Gramsci, et comme Staline, d'ailleurs. Et ce qui a été fait pendant un certain nombre d'années ici, bon, même avec les groupes d'éducation nouvelle, etc., nous avons été vers cette idée de praxis. Et puis maintenant, il y a une très très grande régression. Voilà, donc est-ce que, bon, on voit que le capitalisme reprend vraiment, récupère ses vies, et voilà, est-ce que. Sommes
vraiment dans une phase régression réelle. Merci. Sur le concept d'hégémonie, ben je pense avoir dit l'essentiel, c'est-à-dire que Gramsci voit une différence entre la structure de l'État dans des pays moins développés d'un point de vue industriel et dans les pays plus développés. Donc ça, c'est important. On retrouve une réflexion très semblable livrée par Staline dans les réunions de l'international communiste telles qu'on les voit dans les journaux de Dimitrov qui ont été publiés après 1991, donc grand révolutionnaire bulgare, dont on a les journaux. Donc on a, très souvent c'est très court, mais à un certain moment, alors je ne sais plus, il discutait avec Manouilski, je ne sais plus en quelle année, mais il dit très bien qu'en Russie, il dit, nous avons pu faire la révolution parce que la bourgeoisie n'avait pas fait à temps à se relier aux masses par le Parlement, comme il avait été le cas à l'Occident. Et donc, Staline lui-même dit, Gramsci ne pouvait pas le savoir, qu'à l'Occident, c'était beaucoup plus difficile car les classes dirigeantes étaient reliées à la masse par le Parlement. Alors, il dit le Parlement, qui est le symbole de ce lien qui crée un consensus, les élections, les représentants, la loi votée par le représentant, et qui manquait, enfin, il y avait la Douma, etc. Mais bon, d'après Staline, ce lien organique essentiel manquait. Alors, je pense que Gramsci a vu la même chose. Et donc, il dit, pour conquérir l'essence du pouvoir dans un pays hautement articulé, organisé, et où le savoir est diffus et répandu, il ne suffit pas d'aller au palais d'hiver, enfin je caricature, mais il ne suffit pas d'avoir l'armée, etc. Il faut conquérir ces avant-postes, ces casemates, etc., c'est-à-dire tout l'appareil producteur d'idéologie. Et il constate que dans l'état large qui s'est imposé notamment après la crise de 1929, où l'État intervient par les services publics, par l'économie, beaucoup plus dans la vie des gens, dans la société, bah, dans un État comme ça, le consensus est beaucoup plus fort. Parce que outre le sabre et le goupillon, il y a aussi l'organisation, l'école, etc., les institutions. Alors il dit bien, il y a aussi la structure, c'est-à-dire qu'il y a aussi les entreprises nationales, l'énergie, etc. Mais il ne dissocie jamais structure, superstructure, de toute façon, ça, je crois qu'on est tous d'accord, nous aussi, pour ne pas dissocier. Donc il dit, dans ces conditions-là, d'une extrême articulation du rapport de pouvoir entre pouvoir central et citoyen, il faut savoir que le consensus est capillaire. Donc, si on veut conquérir le pouvoir, outre la conquête du pouvoir, il y a ce que j'appelais le versant extérieur, c'est-à-dire la conquête des cœurs, si on veut, des esprits. Donc, créer. Alors, Gramsci a un autre concept qui me semble très intéressant, c'est celui du bon sens. Il dit le bon sens n'est pas une chose qui est donnée une fois pour toutes. Le bon sens évolue avec la société. Donc le jour où le bon sens dira que les moyens de production doivent être de propriété étatique, publique, collective, nous aurons gagné. Bon, encore une fois, je simplifie. Mais l'idée, c'est que tant que les théories marxistes, économiques ne deviendront pas du bon sens, du vécu, on n'aura pas conquis l'essence du pouvoir. Voilà. Donc, pour lui, dans cette configuration-là, donc d'une société industrielle avancée, il n'y a pas vraiment de rupture entre État et société civile. Voilà. Après, disons que quand il y a une crise du consensus, voire gilet jaune, là, ils vont sortir le flashball. Là, le côté coercition, le côté violent de l'État va sortir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la presse qui va vous expliquer que les gilets jaunes, etc. Enfin, il y a toute une armada conceptuelle aussi à côté de la coercition. Mais comme Gramsci le dit, en temps normal, on n'a pas besoin de ça. C'est parce que dès l'école, on apprend aux gens à aimer le régime dans lequel on vit. Donc après, vous parlez de régression aujourd'hui, moi je parlerai, là on sort de Gramsci, mais je parlerai de lutte des classes. On ne la gagne pas toujours, là en ce moment on la perd, mais c'est un rapport de force. La lutte des classes c'est une donnée historique, on est dans une phase de régression parce qu'on est dans une phase où le MEDEF gagne la lutte des classes, mais qui sait, dans 5 ans, dans 2 ans, on n'a pas la boule de cristal. Et pour donc vous parliez de ça en relation au concept de praxis. Pour Gramsci, praxis, ça sert à rendre le contenu de la philosophie de Marx. C'est-à-dire que tout est dans l'analyse des actes, des actions, de ce qui est en mouvement dans la société visible. Alors, ce que je peux ajouter par mes lectures, encore une fois, pas de lecture de spécialiste, c'est que, comme je l'ai lu dans un des extraits que je vous ai lu, pour Gramsci, derrière Marx, il y a Hegel, il n'y a pas seulement Feuerbach, il y a tout l'idéalisme. Il parle aussi d'idéalisme italien, mais évidemment, derrière Marx, il y a surtout l'idéalisme allemand. Il n'y a pas que Hegel, il y a plein de philosophes extraordinaires. Et ça me semble important, parce que pour ne parler que de Hegel, déjà chez Hegel, il y a des concepts fondamentaux. Et Hegel, il souhaite faire analyser par la philosophie la totalité du réel, donc donner à la philosophie le but d'analyser la vie concrète. Hegel est l'ennemi du mot abstrait. Pour lui, quand on fait une abstraction, quand on parle d'une situation quelconque en faisant abstraction d'un côté, pour se concentrer sur certains aspects, on est dans le faux. Donc pour Hegel, la philosophie ne peut, si elle veut être dans le vrai, que analyser le 100%. Voilà, donc rien qu'en disant ça, on est dans l'analyse de la praxis. Je rappelle aussi que Hegel, tout en passant pour le philosophe de la réaction, etc., en réalité, il dit des choses terribles, parce que quand il dit que la religion exprime par des figures, par des mythes, ce que la philosophie exprime d'une manière logique et scientifique, eh ben, il démolit d'un coup de main toutes les religions du monde. C'est pas rien, ça. Donc, nous, on met l'accent sur Marx, mais il faut vraiment voir derrière Marx toute une puissante, une puissante vie philosophique allemande qui s'est proposée d'étudier l'infini, c'est-à-dire la vie dans ses possibilités infinies. Et c'est pour ça que Gramsci, par exemple, parle de créativité. Parce que dans Hegel ou dans Fichte, Schelling, il y a cette notion de créativité infinie de l'histoire, pas de l'esprit humain, de l'histoire telle qu'elle se fait. Et ça, pour ces gens-là, était très important, parce que créativité, ça veut dire, si nous avons une volonté, un programme et des bases et un rapport de force, nous pouvons faire l'histoire. Et voilà. Et donc, Marx véhicule tout ce terrain. Donc derrière la praxis, à mon sens, il faut voir aussi une disposition de la pensée à ne pas abstraire les choses, à ne pas idéaliser, mais à prendre le 100%, la totalité, prendre par exemple la Russie telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Et essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Bon, je m'arrête là.
J'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps un bouquin de Georges Vadica qui s'appelle Le statut marxiste de la philosophie. Et les trois premiers chapitres, je les ai trouvés absolument extraordinaires. Le reste, la suite, j'ai beaucoup compris. C'est pas tout géré de fond, mais les trois premiers sont magnifiques. Il explique par exemple, pour aller dans ton sens, que il y a des raisons concrètes à ce que tu dis sur Hegel. C'est-à-dire que, de la même manière que les luttes, comme dit Hegel à propos de Feuerbach, au Moyen-Âge, à la sortie du Moyen-Âge, les luttes politiques se traduisaient en termes théologiques. Ce qui fait que Luther n'était pas seulement une réforme théologique, c'était une réforme politique et sociale. D'où la guerre des paysans. Et bien, en Allemagne, au XIXe siècle, c'était la même chose, en ce sens qu'il y avait jusqu'en 1900, jusqu'à l'unité allemande faite par Bismarck avec la guerre franco-allemande, il y avait 35 principautés. Et malgré tout, il y avait une industrie qui commençait à démarrer à partir du milieu du XIXe siècle, et il y avait une police politique et sociale extrêmement puissante et barbare, exactement comme en Russie, qui faisait que le débat politique se traduisait en termes philosophiques. Et c'est la raison pour laquelle Hegel était à la fois un philosophe totalisant et en même temps un compendium de pistes d'action politique. Et la conclusion que la plupart des jeunes hegeliens tiraient de l'idéalisme, du soi-disant idéalisme hegelien, oui, c'est la tradition idéaliste, mais traduite en politique, l'idéalisme, ça peut prendre différentes formes. Ça prend la forme de la justification par la religion des pouvoirs établis et de l'Ancien Régime, par exemple, mais ça peut prendre aussi la direction des Carbonari, enfin des gens qui voulaient un autre monde, tout simplement des sectes protestantes en Angleterre au XVIIe siècle. Donc la rupture elle s'est faite en 1848, et Ricard indique, ce que j'aime beaucoup dans ces trois chapitres, c'est la contextualisation historique des grands problèmes dont tu parles. Parce que ce n'est pas des questions abstraites du tout. En 1848, il y avait 40 000 émigrés politiques allemands à Paris. D'où Rosses, influence Marx, etc. Et Marx, élève de Hegel, la genèse de la pensée de Marx vient de ce problème.
Alors, peut-être qu'on peut prendre une deuxième question.
Quelqu'un a-t-il vu la feuille avec les...
Vous avez évoqué, en passant, l'influence de Georges Torrel sur Gramsci. Et donc, c'est intéressant de s'interroger un peu là-dessus. Dans la mesure où Georges Torrel, qui est un penseur un peu oublié aujourd'hui en France, enfin, pas mal oublié, mais... auteur d'un livre qui s'appelle Une réflexion sur la violence, et ce qui est saugrenu, enfin, ou interrogateur chez Sorel, c'est qu'il a exercé une influence relative, plus que relative, sur des courants d'extrême gauche, qu'on qualifierait aujourd'hui d'extrême gauche, le syndicalisme révolutionnaire de la CGT, au début du siècle, et en Italie, Gramsci, et assez paradoxalement, il a aussi exercé une influence sur le fascisme. Alors, il est vrai que Mussolini venait lui-même du Parti Socialiste, mais comment on peut expliquer cette ambivalence, autrement dit, d'ailleurs le fait que Sorel soit beaucoup plus, reçu en Italie qu'en France, semble-t-il, et qu'il ait pu influencer à la fois, avoir une relative influence sur Gramsci, d'une part, Mussolini, d'autre part. Mussolini fasciste, pas Mussolini socialiste.
Merci à Jean-Claude. Donc voilà, nous recommandons le livre de l'Amica. Voilà, bien sûr, tu as conforté plus ou moins des choses, des idées qui me sont chères. Et donc, ce que je ajouterais, c'est que c'est malheureux qu'on appelle la philosophie d'Hegel l'idéalisme, parce que, en fait, c'est la philosophie de l'absolu au sens de. Une pensée, une série de réflexions logiques qui sont absolues, c'est-à-dire qui ne dépendent pas d'autre chose. Et donc qui font de la pensée philosophique comme indépendante. Et on pourrait aussi l'appeler la philosophie du concret, parce que ça c'est un point qui est très cher à Hegel, au point que pour lui, les esprits abstraits, c'est une insulte, c'est-à-dire qu'il exerce ses sarcasmes sur les esprits abstraits qui ne voient qu'un côté des choses. Et alors ça va jusque évidemment à, je ne dis pas au côté réactionnaire, mais au côté conservateur, parce que pour Hegel, et là on est loin du marxisme, ce que nous appelons les idéalistes, ceux qui voudraient transformer le monde de fond en comble, ne voient pas le côté concret, la richesse du monde. C'est-à-dire, ce sont pour lui des esprits abstraits, parce qu'au nom d'un idéal, d'un devoir-être, ils pensent qu'ils peuvent changer l'être. Or, bon, ça, évidemment, nous ne sommes pas d'accord, mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette critique, c'est-à-dire que si on veut changer le monde, il faut d'abord le connaître bien, et en avoir une expérience précise. Je crois que ça, c'est une leçon qui a été retenue par les communistes de l'époque de Gramsci. Ils voulaient, comme j'ai essayé de le montrer, bâtir un État solide. Et pour bâtir un État solide, il faut savoir quels sont les rapports de force, il faut savoir le monde tel qu'il est. Voilà, ça c'est la leçon d'Hegel. C'est pour ça que appeler ça idéalisme, ça me semble vraiment vache par rapport à ce qu'a dit Hegel. Et ça masque ce qu'on disait. Alors j'ajoute aussi une autre chose qui nous éloigne de toute cette philosophie allemande. C'était effectivement des repères de liberté intellectuelle, donc ces universités. Et à cause de ces conditions de pression politique en Allemagne et aussi de la tradition des universités de théologie allemande, ces gens-là s'expriment dans un langage insupportablement compliqué. Ils créent chacun ses mots, leurs concepts, etc. Des choses simples, ils les disent d'une manière absolument insupportable. C'est en partie pour se défendre contre la censure, en partie parce que chaque roitelet universitaire tenait à avoir sa suite, si vous voulez. Mais enfin, le fait est que pour nous, ça devient des textes illisibles. Et on est obligé d'avoir accès à ces philosophies par des résumés, des livres qui, bon, évidemment, vont en partie trahir la pensée. Mais ça, c'est une vraie difficulté. Ils ont élaboré un langage philosophique très dur à suivre pour ceux qui n'ont pas vraiment une habitude de ce genre de phrasé. Voilà. Alors, pour la question sur Sorel, alors c'est très intéressant. Ça nous intéresse au titre du CUM. On avait d'ailleurs pensé à consacrer quelques séances aux penseurs, on va dire, en opposition. Bakounine vis-à-vis de Marx, Proudhon aussi vis-à-vis de Marx, Sorel. Donc une série de penseurs qui sont aujourd'hui des mineurs, mais qui ont exercé dialectiquement la sagacité des grands auxquels nous nous référons. Donc ils sont un peu l'autre face de la lune, si vous voulez, mais on n'a pas réussi à trouver des spécialistes parce que justement c'est des auteurs un peu laissés en toile de fond. Alors Gramsci dans Les Cahiers de prison reprend souvent la pensée de Sorel en la critiquant et en parlant de sorellisme, d'idées sorelliennes, etc., enfin, mais d'une manière un peu méprisante justement à cause de cette histoire avec le fascisme. Alors je pense que ce qui explique le fait que Sorel au début ait salué la révolution d'octobre, hein, il a des écrits très explicites, mais qu'ensuite il ait aussi inspiré le Mussolini fasciste, c'est peut-être la différence entre la révolution réelle, comme disait Gramsci, fondée sur une nouvelle classe, et non pas la rhétorique de la révolution, mais la révolution factice que Mussolini a mise en place, parce qu'il a fait une révolution avec l'appui du roi, de toute l'appareil industriel, ça c'est pas une révolution. Il appelait ça révolution fasciste pour adhérer à l'esthétique ou à l'image, au semblant de la révolution. Mais c'est pas une révolution. Ou alors, Gramsci reprend une catégorie qui a été élaborée par un patriote napolitain, Vincenzo Cuoco, après la faillite de la révolution de 1799 à Naples, sur la vague des révolutions européennes déclenchées par la révolution française. Donc il a parlé des révolutions passives pour montrer la vague de répression. C'est une révolution passive, c'est-à-dire que ça se présente comme des nouveautés politiques, mais l'essentiel du pouvoir est maintenu par ceux qui l'avaient déjà avant. Voilà, je crois que ça c'est une notion qui nous intéresse beaucoup. Voilà, on sent qu'il y a un appétit de révolution, alors vous voulez la révolution, on vous la donne. Ce sera la révolution fasciste. Voilà, donc je crois que c'est un concept très intéressant et ça montre, si on veut, les limites de superficialité dans certaines théorisations de Sorel. Voilà, mais encore une fois, je ne veux pas le rabaisser parce qu'on avait, hein, tu es d'accord, on avait songé à réunir dans une séance ces autres philosophes contre lesquels Marx, Engels, Lénine, etc. se sont polémiqués, donc Gramsci avec Sorel notamment. Voilà, donc c'est une ambivalence qui est expliquée par le côté superficiel de cette idée de révolution.
Merci pour cette question. C'est une question très courte. Quelle peut être l'actualité de Gramsci aujourd'hui dans vos luttes?
Bien, merci. J'ai essayé de montrer que l'essentiel de la pensée de Gramsci est actuel. Et le thème que j'ai choisi est celui des intellectuels, parce que ça me semble que aujourd'hui, donc nous sommes un cercle qui se veut intellectuelle, philosophique sur Marx, sur le marxisme, et parfois on a l'impression d'être un peu tout seul dans notre coin. Et lire Gramsci nous donne la conscience de l'importance que nous sommes en train de faire, et ça nous donne la conscience du fait que chaque chaînon dans cette continuité sociale et intellectuelle, à partir du maître d'école, etc., est important, a son importance, parce que la structure économique dans laquelle nous sommes tous pris et la direction politique qui en découle actuellement dépendent de ce consensus créé organiquement dans toute la société. Donc je crois qu'il est important pour nous d'évaluer ce rapport de force, parce qu'encore aujourd'hui on a, certes, on a beaucoup perdu, mais il y a quand même de beaux restes. Je rappelle que, enfin, ça c'est ma pensée, mais je pense que si nous avons autant, disons, de services sociaux et d'État social, c'est pas seulement parce qu'on a fait des luttes en France, en Italie, en Europe, mais parce que ces luttes aussi étaient confortées par la présence du bloc socialiste. Or, ce bloc socialiste n'existe plus depuis maintenant longtemps. Malgré cela, la France et d'autres pays ont tellement incorporé certaines idées comme les retraites, etc., qu'on les a encore, malgré 30 ans de régression. Enfin, ça, je ne veux pas nier qu'il y ait une régression. Mais si vous allez dans des pays où les États-Unis gouvernent vraiment, comme je connais un peu mieux le Pérou, tout est privé. C'est normal, ça coûte des milliers d'euros, enfin je traduis en euros, d'aller accoucher à la clinique. Voilà. L'université, vous savez combien ça coûte. Si on se met à trois, on peut ouvrir un lycée privé à Lima, au Pérou. Parce qu'il suffit de présenter un plan, vous donnez la licence, vous cherchez les locaux, vous ouvrez un lycée. Donc tout est privé. Ça, je parle du Pérou, mais enfin, il y a d'autres États où les États-Unis dictent la loi. C'est ça le programme que, disons, aurait pu être imposé à l'Europe occidentale à partir de 1945, puisque les États-Unis étaient chez eux. Donc si ça n'a pas été fait, c'est bien parce qu'il y a eu des luttes profondes, vastes, avec, en utilisant un peu comme le billard à trois bandes, le bloc socialiste, parce que ça a bien été utile, que soit votre idée de la réalité socialiste, mais ça reste. Donc on peut aussi regarder le verre à moitié plein. Moi j'ai envie de dire ça, et Gramsci nous y invite en nous invitant à penser les rapports de force de manière capillaire. Voilà. Donc chacun qui a un degré de conscience et qui a un rôle dans la société peut porter cette lumière autour de soi, et Gramsci nous dit que c'est très important, que le consensus dépend de ça. Donc si nous créons un mouvement pour amoindrir ce consensus, pour porter la contradiction à tous les niveaux, encore une fois, ce n'est pas sans effet, même si on est tous d'accord qu'on vit 30 ans de défaite, de désorganisation, qu'on partait d'un État hautement organisé, avec une cohésion, une cohérence et un déploiement international, pour arriver à l'émiettement, à l'atomisation d'aujourd'hui. On le sait. Mais on a quand même des beaux restes, et je pense qu'il ne faut quand même pas l'oublier pour s'appuyer dessus, dans la presse, dans plein de choses. Donc je pense que Gramsci est utile aujourd'hui, donc pour répondre à votre question, pour nous donner de l'optimisme. D'ailleurs, il y a une phrase, donc je ne sais plus où je l'ai lu, mais c'est bien de Gramsci, qui parlait du caractère bourgeois du pessimisme. Il disait, il faut être vraiment borné pour être pessimiste. On a tout à gagner. Donc, il ne le disait pas comme ça en l'air. Il le disait à suite à une analyse économique et sociale précise de l'évolution des rapports de force. Donc, on ne peut pas, d'après Gramsci, être pessimiste si l'on est camarade communiste. Je crois que c'est important de se nourrir de cette pensée. Et lui, il a été optimiste alors qu'il était sans plus dedans, dans la prison, en train d'écrire alors qu'on ne pouvait plus se nourrir. Voilà. Bon, je...
Alors, on se coupe par ceux qui n'ont pas encore parlé.
Bonjour, merci pour vos réponses. Je ne sais pas si c'est pertinent ce que je vais dire pour ajouter à ce que vous parlez. Et dans la catégorie des intellectuels et organismes qui Gramsci disait, je pense qu'il allait plus loin. Il disait presque tout le monde pouvait être intellectuel. C'est le problème, c'est que l'académie nous a mis dans la tête que l'intellectuel, c'est ce qui fait les études dans l'université. Mais quand il travaillait avec les conseils des travailleurs, il disait c'est des intellectuels, mais c'est des intellectuels qui ont vécu, qui ont abstracté, qui ont la connaissance, qui ont... Donc, dans cet optimisme que vous dites, je pense que nous, ici, en France, et dans beaucoup de pays, on doit revaloriser notre capacité de générer des connaissements, des connaissances, mais aussi d'une partie, d'un vécu qu'on a et qu'on est capable de mettre en place dans plein de choses. Donc, moi, je me soumets à l'optimisme, mais dans la responsabilité de se sentir un intellectuel organique dans une société conflictuelle, une société qui est une lutte de classe et qu'il faut assumer, c'est tout, il faut assumer.
On prend une autre question.
C'est dans la lignée de ce qui vient de se dire sur le pessimisme et l'optimisme. Hein. Donc en fait, alors bien sûr, tout le monde connaît l'expression qu'on a expliquée de Gramsci, l'optimisme de la volonté contre le pessimisme de l'intelligence. Alors je vous demande comment vous interpréteriez cette expression, ou bien peut-être que Gramsci il a donné un sens précis à cette expression. Est-ce que c'est réutilisé par des gens de droite, enfin, c'est vraiment galvaudé, donc comment on pourrait avoir un sens un peu marxiste de l'optimisme de la volonté, du pessimisme de la volonté.
Merci. Donc, je pourrais citer un passage où Gramsci justement analyse le travail que fait un ouvrier, par exemple spécialisé, et il dit on ne peut pas séparer la partie manuelle de la partie intellectuelle, parce que c'est pas juste un abruti qui fait. Il doit avoir un contrôle de ses gestes, de sa pensée, de ce qu'il fait. Donc il y a dans tout travail, aussi concret soit-il, il y a la composante intellectuelle. Donc absolument, il ne faut pas séparer, encore une fois. Et d'autre part, lui parlait d'intellectuels traditionnels pour parler de ces intellectuels qui faisaient les intellectuels. Voilà. Donc il disait bien que l'intellectuel organique, c'est le technicien, enfin, c'est tous ceux qui sont conscients de la fonction intellectuelle et potentiellement dirigeante de leur activité, de leur travail. Donc ça, on est absolument d'accord, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Alors, pour l'optimisme de la volonté, je ne sais plus, mais il me semble qu'il reprend la formule à un écrivain français. Donc ce n'est pas... C'est Gramsci qui... C'est Anatole France. Voilà, absolument. J'avais plus en tête le nom, mais je me souvenais bien que c'était... Il l'utilise beaucoup, mais alors j'insisterai peut-être sur le mot volonté, ce que je crois avoir montré à travers les extraits que j'ai lus, combien ce mot volonté pour Gramsci était important. Au point qu'on parle pour cette phase de la vie des partis communistes du volontarisme. Hein, on veut le pouvoir, donc on peut le prendre. Je caricature encore une fois. Mais c'est le contraire exact de la deuxième internationale, de la seconde internationale. C'est en réaction. L'optimisme dans la volonté, c'est tout simplement le fait de dire que si on a un programme et une volonté collective, il n'y a pas de raison de ne pas obtenir des résultats. Voilà. Et le pessimisme de la raison est tout simplement la prudence, c'est le fait que voilà, que on envisage la défaite, etc. Mais il ne faut pas que ces éléments rationnels cassent la dynamique de la volonté au nom de ce que je disais tout à l'heure et qui remonte à l'idéalisme allemand et à Hegel, au nom de l'infinie créativité de l'histoire. Au nom du fait que, quel que soit le résultat obtenu, ce sera quelque chose de nouveau et une nouvelle donne dans l'histoire qui n'existait pas avant. En d'autres termes, l'histoire nous surprend toujours, mais on peut être collectivement acteur de l'histoire. C'est dans ce sens-là qu'il parle d'optimisme de la volonté, et à ce moment-là, ce qui doit dominer, c'est l'optimisme. Puisque du moment qu'on est conscient de sa propre force et du rapport de force, on peut, en faisant une analyse précise, aller de l'avant, obtenir des résultats. Même dans des situations de forte régression. D'ailleurs, c'est pour cette raison, je pense aussi, que la pensée de Gramsci est lue dans le monde entier. Il y a une tradition de la pensée de Gramsci dans les pays du Maghreb, etc. Enfin, on pourrait multiplier. Et aussi, il y a la tradition de Gramsci aux États-Unis aussi, parce que ça les intéresse dans les universités, la notion d'hégémonie, la notion de bloc historique de classe, etc. Donc, je crois que c'est ça un peu la force que contient la pensée de Gramsci, non seulement sa vie, mais aussi qui est un exemple. Voilà. Si je voulais ajouter quelque chose, non, mais c'est ça. C'est le fait qu'elle soit lue dans le monde entier me semble important. Oui, oui, bien sûr.
Spécialiste de Gramsci, mais moi j'ai observé il y a quelques années maintenant que Gramsci avait fait l'objet d'une récupération de droits
Sarkozy,
un discours, et à l'époque je m'étais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire, quel est cet hommage du vice à la vertu. Je crois que ça tourne autour de la question de l'hégémonie et que Gramsci, les concepts gramsciens peuvent être interprétés d'une manière parfaitement réactionnaire comme une méthode de conquête et de conservation du pouvoir, comme les concepts machiavéliens. En tout cas, certains de ces concepts, notamment le concept d'hégémonie, que fait la bourgeoisie international, si ce n'est passé son temps, via les GAFA et autres, effectivement les corps, etc., à développer en permanence cette créativité fantastique pour hégémoniser des gens qui sont de plus en plus malheureux, de plus en plus dans le mal-vivre, parfois à un point invivable, je pense à plein de gens en pensant à ça, en disant ça. Et donc, je crois que cette récupération de droite de Gramsci, en soi, est un phénomène intéressant. Et pour autant, ça ne fait pas de Gramsci un penseur de droite. Qu'est-ce qui fait de Gramsci autre chose qu'un penseur de droite? À mon avis, c'est le fait qu'il se pose et il traite de la question du partage de la révolution. Partage de la révolution, de la mise en mouvement du peuple, et de la classe ouvrière notamment, autour et dans la révolution. La notion de d'intellectuel collectif, à mon avis, telle que je l'ai comprise, elle exprime bien ça. Et on a parlé tout à l'heure de créativité, ça me semble être quelque chose de très, très important, une idée très importante. Il y a chez Gramsci une confiance fondamentale dans, non pas l'homme abstrait, mais la capacité de l'homme à prendre ses affaires en main, à sortir de cette situation de domination. avec un rôle assigné au parti là-dedans, qui est un rôle tout à fait essentiel, qui est celui d'être le ferment de cette mobilisation de la créativité. Alors, moi j'observe quand même que si Gramsci est lu partout, il n'a pas toujours été lu partout, et qu'il a même été assez longtemps dans le mouvement communiste, lu, non pas nulle part, mais en cachette. En cachette, exactement. Et c'est un problème. C'est un problème parce que je crois que ça voulait dire simplement que c'est cet appel à la créativité, cette confiance dans la créativité des masses, finalement, n'était pas fondamentalement le credo, la conviction profonde des dirigeants du mouvement communiste international, je le pense. Et ça a laissé un certain nombre de séquelles qu'on paye, je pense, encore fortement aujourd'hui. Mais ça doit nous amener à repenser la question de la place, y compris des subjectivités, dans la construction révolutionnaire.
Une clé USB en bas, je crois que c'est sérieux. Une clé USB près du pied, enfin, derrière votre sac. Bon. Merci. Oui, Gramsci est un grand penseur et en tant que tel, il est lu par la droite et la gauche. Qu'est-ce qui fait de lui un penseur? Alors, moi, tout d'abord, je voudrais souligner que le fait que Gramsci décrive des processus qui existent dans les prises de pouvoir, etc., et qui pensent l'hégémonie, ça ne doit pas être d'abord appliqué aux forces communistes. Je fais un exemple. Il y a pas longtemps, on parlait souvent des minorités agissantes comme devant être le but du parti. Mais la minorité agissante, c'est le CAC 40, c'est pas le parti. Enfin, le mouvement communiste a repris à son compte des idées qui en réalité servaient à décrire comment se passent les choses dans l'exercice du pouvoir. La minorité agissante, c'est le CAC 40. Et il impose ses choix à la majorité que nous tous formons. Donc, si on veut qu'on se propose comme but que le parti devienne une minorité agissante, ça c'est un programme. Mais la réalité des choses, des rapports de force, c'est pas ça. C'est la minorité agissante, ce sont un poignée de familles qui dictent la loi. Et de même, quand il décrit l'hégémonie, c'est l'hégémonie de l'État bourgeois, que l'on apprend, comme je disais tout à l'heure, dès la maternelle, dès l'école, etc. Donc, Gramsci analyse ça pour mieux aider une révolution. Mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord des analyses des états des faits, des choses qui du fascisme déjà. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Même si après on reprend et on dit le Parti communiste doit faire un certain nombre de choses pour avoir le pouvoir, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, c'était l'analyse de ce pouvoir-là exercé de cette manière-là. Après, on a des phrases, je pense avoir lu des phrases très claires qui montrent qu'il est de gauche. Quand il dit aux fascistes, votre révolution n'est pas une révolution parce qu'il n'y a pas une nouvelle classe qui arrive au pouvoir. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Et il n'a pas écrit dans les cahiers de prison, il l'a dit au Parlement italien. Bon. Quand il dit la révolution prolétarienne ne peut être qu'une révolution totale. Pour la formation de nouvelles mœurs, de nouvelles psychologies, de nouvelles sensibilités, manières de raisonner, de vivre, propres à la classe ouvrière, et que celle-ci devra forger et créer une nouvelle civilisation prolétarienne, je ne pense pas que quelqu'un de droite ou un libéral puisse s'approprier ces phrases-là. Donc, peut-être la difficulté, c'est que, est due à la manière même dont Gramsci a été obligé aussi d'écrire en prison, qui permet d'extrapoler des phrases, mais extrapoler les phrases des gens de gauche pour leur faire dire une autre chose, n'y a pas que Gramsci, il y en a plein qui sont pillés de cette manière-là, on leur fait dire. Donc il faut savoir à quelle époque Gramsci a écrit telle ou telle phrase, dans quel contexte, etc. Sinon, c'est facile. Donc voilà, ça c'est la partie, disons, caricaturale. D'autre part, comme tout grand penseur, il peut inspirer la pensée aussi des gens qui ne partagent pas leur idée. Ce qui me semble favorable à la cause communiste dans ce cas-là, c'est que lire Gramsci, c'est pas seulement lire les phrases qui peuvent plaire aux libéraux, c'est aussi lire des phrases comme celles que je vous ai lues, puisque il est communiste, donc il va défendre une certaine idée de l'exercice de pouvoir, des mouvements de classe, des mouvements de masse, etc. Donc si des gens qui sont acquis au libéralisme lisent Gramsci, bah tant mieux. Parce qu'ils vont trouver aussi des phrases beaucoup plus subversives. D'autre part, pour être beaucoup plus concret, pour le cas italien, il y a l'Institut Gramsci qui a les archives, administre, etc., qui était lié au Parti communiste italien, mais qui a suivi l'évolution ou l'involution du Parti communiste italien, qui est devenu parti de démocrates de gauche. Bon, encore ça pouvait, mais là c'est devenu parti démocrate, c'est-à-dire on singe le parti démocrate américain. Donc les gens qui dirigent l'Institut Gramsci, fatalement, ils sont des gens qui plaisent au PD, au Parti démocrate. Voilà. Donc, ça, il y a aussi des choses très concrètes, hein, comme ça. Donc, bon, certains intellectuels, je ne vais pas nommer, mais ils ont écrit des biographies de Gramsci où, ben, finalement, il était contre Staline. Finalement, enfin, on fait dire des choses, des phrases qui peuvent être mal interprétées, au mépris de la vérité historique. Et puis, de toute façon, à l'époque, c'était difficile de ne pas être pour Staline. Et lui, intellectuellement, il polémiquait contre Trotsky à l'époque où il a pu écrire et avoir des nouvelles du monde filtrées par la prison. La polémique, c'était Trotsky-Staline. Donc, il a pris position clairement là-dedans. Voilà. Après, alors, on a
Alors, par rapport au débat là, qui se noue, moi je pense que c'est pas simplement un problème de sémantique ou de rattachement aux intellectuels sur le texte même. Moi je pense que si les gens comme Sarkozy à droite, c'est pas simplement un effet de mode, en effet, de passer un bon mot. C'est qu'effectivement, aujourd'hui encore, la question de l'hégémonie culturelle, c'est la capacité effectivement à soumettre, à démobiliser. Et à dominer dans la sphère à la fois des rapports réels, des rapports idéologiques. Ça, c'est ça qui est. C'est pas parce qu'ils ne cherchent pas à tirer à la droite Gramsci ou dire qu'ils seraient à droite. C'est qu'ils, je crois qu'ils ont compris quelque chose dans leur pratique réelle. Moi, je pense que l'intérêt aussi, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans Gramsci, c'est justement, quand on parle de ce qu'ils veulent augmenter, c'est que par rapport à des visions mécaniques ou fataliste de l'histoire, il mesure en quoi la révolution soviétique des années 17-20 constitue une opportunité au sens d'un événement historique et l'intérêt d'investir toutes les possibilités d'ouverture et de transformation de la société, sans forcément dire savoir si on va perdre ou on va gagner, mais investir tout le champ du possible à un moment historique. Et moi, ce qui me semble assez intéressant aussi dans la réflexion, c'est que bien sûr, il y a la question de la prise du pouvoir, mais c'est qu'il y a toute la réflexion sur comment, dans la conception même de la transformation sociale qu'implique sa réflexion au travers des conseils d'usine et de toute la réflexion qu'il a pu mener, y compris, c'est aussi une interrogation concrète sur ce qui se passe, enfin, sur les évolutions de la révolution en Europe à ce moment historique. Et c'est intéressant sur la suite que ça a pu donner, parce qu'on peut quand même se demander, quand on regarde un petit peu l'évolution, y compris des pays socialistes de l'Est, ce qui est assez intéressant, c'est de voir quand même que ce système, il ne s'agit pas de diaboliser ni de gommer les dimensions contradictoires, y compris, enfin, il ne s'agit pas de tomber là-dedans, mais globalement, l'État socialiste s'est effondré, point barre. C'est-à-dire qu'une des raisons qui explique peut-être aussi l'effondrement de l'Est, c'est peut-être aussi parce que l'investissement, l'appropriation par les masses elles-mêmes dans l'esprit de ce que la pratique politique de Gramsci à son époque, dans les contextes poursuivis, n'a pas été travaillée. Si effectivement les choses s'effondrent comme cela, c'est aussi, il y a des rapports de force nationaux, hein, bien évidemment, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il y ait grand monde qui soit précipité pour, que ce soit en RDA ou dans d'autres pays. Je pense qu'il y avait une part aussi d'échec politique par rapport justement à l'intuition que pouvait avoir Gramsci, que les choses se gagnaient aussi dans les cœurs, dans les esprits, dans les sensibilités, dans la capacité à inventer des modes de vie et des, comme je dis justement, des mœurs qui permettent effectivement à la fois de donner, d'éclairer le sens de ce qu'est une société d'émancipation, d'un processus d'émancipation individuelle et collective, et qui permet aussi d'être défendu et porté par une majorité de la population, et en particulier des classes exploitées, quoi. Et alors aujourd'hui, pour terminer, je pense que la réflexion Gramsci, c'est une invitation. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire comprendre la société dans laquelle on est, l'investir en prenant en compte la société telle qu'elle est aujourd'hui et en saisissant toutes les opportunités pour le faire. Et de ce point de vue, la réflexion entre culturelle, politique et sociale, je pense que dans le capitalisme d'aujourd'hui, il y a des nouveautés par rapport à ne serait-ce que parce que y compris le fait d'avoir vécu une défaite historique, ça demande à être pensé. C'est-à-dire que même y compris la manière de penser, le parti, la prise du pouvoir, ce qu'il faut faire aujourd'hui. Enfin, moi, je crois que pour moi, les Gilets jaunes, c'est aussi une invitation, et ça marque aussi en creux des limites dans la capacité du mouvement progressiste à investir ce terrain. Avec toutes les limites de ce mouvement, il y a des Gilets jaunes.
Bien, une dernière, peut-être, ou deux dernières. Allez, deux dernières.
Donc, juste un mot sur la droite qui aurait récupéré Gramsci, entre guillemets. Je pense que c'est lié à la pensée profonde de Gramsci, la pensée complètement universelle, qui, selon laquelle, pour gagner une bataille politique, il faut gagner d'abord l'hégémonie idéologique et l'hégémonie culturelle. Et si on reprend ce qui s'est passé en France, peut-être dans toute l'Europe occidentale, à partir du milieu des années 70, où il y a eu l'offensive idéologique contre le totalitarisme, autrement dit le communisme et le fascisme, c'est la même chose, etc., un exercice pratique de ce que Gramsci a formulé théoriquement. Hein, c'est-à-dire pour pouvoir remporter une bataille politique, il faut d'abord préparer les esprits à l'hégémonie.
Bon, finalement, est-ce que on renvoie ce que vous avez d'ailleurs très bien décrit, l'analyse que Gramsci fait des conseils de Conseil d'usine en Italie en 1919-1920, lorsqu'il critique directement ou indirectement la conception de l'État qui a l'air d'être dominant dans la période, au début de la période de stalinisation, le fait qu'il s'intéresse à tout, vous l'avez dit d'ailleurs, à tous ces problèmes culturels, artistiques, il montre bien que le socialisme, le communisme, ne peut se réaliser que dans la mesure où il est capable de faire que l'homme soit pleinement considéré comme un homme total, un être total, etc. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cet auteur-là, il avait quand même un petit peu entreaperçu ce qui allait se passer plus tard sur le bloc communiste, socialiste, qu'on déplore tous, bien entendu. Et est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer de ça, je veux dire, parce que, bon, si le système socialiste est assez accueilli, c'est quand même pour ces trois raisons-là. Premièrement, l'incompréhension du rôle de l'État, puisque le nouvel ordre est de dépérir et pas sans force, sans négliger l'entourage, l'encerclement, etc., bien entendu. Hein, bon. Est-ce qu'il ne s'est pas cassé la figure aussi parce qu'il n'a pas su donner le pouvoir économique au travail national? Et est-ce qu'il ne s'est pas cassé la figure parce qu'il n'a pas non plus donné le pouvoir politique aux citoyens, aux citoyens producteurs? En fait, les citoyens soviétiques n'étaient, et de l'Est d'ailleurs, n'étaient ni des coopérateurs, ni des citoyens complets, ni des hommes totaux. Et est-ce que Gramsci n'avait pas entreaperçu tout ça?
Merci pour la question. Alors, sur l'hégémonie, bon, là, je vais vous confirmer, enfin, vous reprenez ce qu'on a un peu déjà dit, donc je suis d'accord. Il y a la question de l'URSS. Alors, je rappelle que Gramsci meurt en 1937. Alors, je pourrais ajouter, en 1937, c'était pas une époque extraordinaire. Hein. Il ne pouvait pas imaginer, en mourant, que 8 ans plus tard, le drapeau rouge serait à Berlin, en haut du Reichstag. Enfin, voilà, enfin, il ne peut pas tout imaginer, tout savoir. Et ce qu'il dit, et ce qu'il a entrevu de l'Union soviétique, on peut le voir déjà dans ses tout premiers articles, parce que là, il n'avait pas encore fait l'expérience d'aller à Moscou, d'avoir une belle famille russe. Hein, parce que, voilà. Je précise que la belle famille était tous des italophiles et parlait italien, etc. Bon, ils ont fait des séjours en Italie. C'est peut-être la meilleure réponse, c'est que ses enfants et ses petits-enfants, enfin la famille Gramsci, est restée en Union soviétique. Et j'ai vu une interview de son petit-fils, je crois, il y a presque 20 ans, qui l'intervieweur italien disait: mais pourquoi vous n'avez pas voulu venir à l'Occident, en Italie? Il m'a dit: mais parce que je suis très bien là où je suis, je dois tout à ce pays, etc. Donc, bon, voilà, ça, c'est la famille de Gramsci. Après, bon, le pouvoir économique, politique, je pense que ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble. Alors, sans être abstrait, mais il faut aller au-delà des perceptions de ce qui peut être la vie quotidienne, ou ce qu'on peut avoir vu dans des voyages, etc. Il faut s'élever à des réflexions plus larges. Comme ça a été dit, ben, l'Union soviétique a été en but à l'hostilité impérialiste tout au long de sa vie. La guerre civile était continuée par d'autres moyens tout le temps. Des masses énormes d'argent ont été investies contre l'Union soviétique jusqu'à la fin. Et malgré ça, on a des victoires tous les continents, des mouvements qui s'inspiraient de l'Union soviétique. Enfin, c'est là aussi, faut faire une analyse historique, économique, à mon sens, très poussée, sans jamais oublier le facteur stratégique international. Et voilà, qui a obligé. Je fais une hypothèse totalement saugrenue, mais imaginons que l'Occident n'ait pas livré la guerre à l'Union soviétique, en disant: bon, nous sommes libéraux, vous voulez nous défier en créant un autre système, eh bien, nous relevons le défi, faites votre système, développez-le comme vous voulez, nous on a notre système libéral capitaliste, on va voir que le meilleur gagne. Ils n'ont pas dit ça. Non. Alors ça veut dire qu'un pays qui veut faire un autre système social est obligé de se doter des armes, d'une armée, de penser à un fric fou qui pourrait être mis dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Et malgré cela, ils ont un taux d'alphabétisation, etc.
Donc voilà, à mon avis, il faut vraiment faire une analyse vraiment économique, c'est-à-dire pas seulement ce qu'ils ont fait de leur appareil industriel, mais dans quel monde ils ont évolué. On peut dire la même chose pour les révolutions protestantes. Si l'Europe catholique n'avait pas fait la guerre à outrance, pensons à la guerre des 30 ans, peut-être que l'Allemagne serait différente. Elle aurait pas eu la Prusse n'aurait pas été aussi militarisée. Puisque quand vous avez une moitié de l'Europe qui vous fait la guerre, vous êtes obligé de faire la guerre, et ça crée une régression morale, psychologique, économique énorme. Donc voilà, ça c'est mes réflexions là-dessus, puisqu'on a parlé de ça. On est un peu loin de Gramsci, mais je crois que le lien avec Gramsci consiste dans la nécessité de faire une analyse totale, globale, sans abstraction, c'est-à-dire sans isoler un aspect au détriment d'autres. Maintenant, voilà, après, mes connaissances aussi sont limitées. Donc
Jean-Claude, très, très brièvement.
Le mot de la fin.
Je ne crois pas qu'on puisse dire que Gramsci n'était pas marxiste, mais la base quand même du marxisme, c'est que la politique n'explique pas la politique. Il faut redescendre à l'économique pour expliquer l'idéologique et le politique. C'est quand même le bœuf à bas. Gramsci était d'accord avec ça.
Ah ben, on a lu les phrases.
S'il est connu à cause du concept d'hégémonie, il faut dire aussi qu'il ne faut pas isoler l'hégémonie du reste.
Absolument.
L'hégémonie explique l'histoire, une partie de l'histoire.
Et justement, on a dit que c'est l'hégémonie, qu'elle soit culturelle ou autre, ne veut pas dire qu'on ne fait pas la révolution avec la prise de pouvoir normale.
Bon, Luigi, merci. Je crois qu'on peut l'applaudir. Un petit mot, donc, on se revoit le 21 novembre. Il y a beaucoup de questions qui sont venues, et c'était intéressant. Enfin, c'est un peu notre expérimentation entre des conférences avec des introductions, je dirais, à la discussion, comme l'a fait Luigi. Je crois que finalement, c'est une formule qu'il va falloir renouveler. Hein. On avait déjà fait ça pour plusieurs sujets. À propos de sujets, sans envahir nos boîtes mail de propositions, si vous avez des propositions à formuler, faites-le. Hein. Les quelques copains qui s'occupent là, de l'organisation, ils censureront évidemment, hein, ça c'est clair vu leur caractère, mais par le fait que au-delà de 7, 8, 9, 10 conférences, on ne peut pas faire beaucoup mieux, donc il faut faire un tri et essayer d'organiser ça dans le temps. Mais si vous avez des propositions, ne vous gênez pas, vous écrivez, vous avez l'adresse du CUM, vous nous dites quoi, comment, etc. Et puis on examinera tout ça pour aller au mieux finalement des intérêts de la discussion. L'URSS fait partie de ces sujets, bien entendu, hein, on ne va pas le développer même. En tous les cas, c'est un appel aux propositions. Hein, voilà. Je vous remercie, nous vous remercions encore une fois, et donc à la prochaine, en espérant que d'ici là, le mouvement populaire ne peut pas s'en.
Comment on arrête ça d'après tout?